Don Alberto,
il
n'y a plus de feuilles. C'est vrai?
Non, c'est vrai.
Attends. Alors, je peux récupérer la deuxième copie parce qu'il n'y a plus de feuilles. Ou alors, je me vois faire des photocopies. Donc. Attends. Ciao, tu reconnais la photo?
Entre-temps, il y a une dame qui s'en occupe.
Ah, d'accord. Quelqu'un.
J'ai demandé à Claudia d'aller en faire.
Ah, d'accord. Mais ce n'est pas elle.
Non, mais il y a Hervé.
C'est pour ça. Hein.
C'est
ça, monsieur. C'est pour ça. Hein. Fabio. Bon, ça y est. Bon, il est fond, hein, les photographes. Alors, bonsoir à tous. Toujours heureux de vous voir. Donc, j'en suis à peu près à 90% d'amis. Et j'espère d'arriver à 100%. J'aimerais juste, avant de commencer, saluer un ami qui est ici ce soir, qui vient de loin, qui vient de Venise, puis il a de la peine à marcher. C'est un écrivain de renom. C'est Monsieur Giuseppe Forte. Le professeur qui est là, avec son épouse. Alors, il écrit de très beaux bouquins, et comme ils ne sont pas traduits en français, on a eu l'idée avec Claude Vérine qui fait la traduction, et moi je voulais la mettre à la bibliothèque, un de ses livres, et puis tout compte fait, on va les mettre sur Internet. Donc, pour l'instant, il n'y a que le premier chapitre et la préface, mais bientôt, il y aura tout le bouquin que vous pourrez lire. Ça s'appelle « La libération de Jérusalem » ou « Le siège de Jérusalem », je sais pas. Voilà. Ceci dit, le sujet de ce soir a été annoncé comme Galilée, Kepler et Newton. Et il y a certainement des choses intéressantes au sujet de ce monsieur qui sont peu connues. Et donc, je me suis vraiment bien amusé à lire leur biographie. Seulement, il y a une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que pour comprendre leur histoire, il faut commencer un peu plus tôt. On ne peut pas ne pas parler de Copernic et Tycho Brahe. Et même pour comprendre ce monsieur-là, il faut commencer vraiment beaucoup plus avant, beaucoup plus en arrière dans le temps, si vous voulez. Donc, pour ne pas galoper sur cinq personnes, vous voyez, ça fait un Copernic, Tycho Brahe, Galilée, Kepler et Newton. Ça n'aurait jamais marché, donc on va faire la moitié ce soir. On va faire probablement jusqu'à Tycho Brahe. Et puis, je prendrai une des dates qui était retenue l'année prochaine pour un autre sujet, donc pour le voyage dans l'espace. Je prendrai une de ces dates pour faire la deuxième partie. Donc, ce sera le 2 mai. Alors, si on reprend les choses depuis le début, vous voyez qu'en Égypte, comme ailleurs, il y avait des légendes sur la constitution du monde. Il y avait une déesse qui soutenait le ciel, qui accouchait chaque jour du soleil à l'Orient, et puis qu'il remangeait quand il arrivait en Occident. Et la terre, au contraire, était une déesse mâle, mais un dieu mâle. Voilà la tombe de Ramsès II, où cette image apparaît. Et, je vais trop vite, les Babyloniens de leur côté avaient un chemin un peu plus simple, c'est-à-dire la terre est plate, elle sort dans l'eau, en dessous il y a le royaume des morts, entouré de 7 murs, en haut il y a 3 cieux, mais en dessous des cieux il y a encore de l'eau. Et c'est quand les cieux fuit, si vous voulez, qu'il y a le déluge universel. Alors, je vais employer tout le long un terme cosmologie. Donc, cosmos, c'est l'ordre en grec, et cosmologie, c'est la description de l'ordre qui règne dans le monde et dans les cieux, si vous voulez. Cette cosmologie, on la retrouve telle qu'elle chez les Juifs, qui ne sont pas, tellement soucié du problème, à vrai dire, mais ils ont repris cette idée dans la Bible. Et d'ailleurs, on la retrouve chez Thalès, si vous vous rappelez. Donc Thalès, une terre plate entourée par l'océan. Et après, il y a ce qu'on appelle les miracles grecs, c'est-à-dire que on cherche à comprendre les choses, mais sans plus faire appel à des dieux ou à des mythes. On commence à chercher de l'explication rationnelle. Alors, il y a une règle de mémoire, si vous voulez, l'histoire grecque, on peut la voir en 3 tranches de 300 ans chacune. Donc, entre 600 avant Jésus-Christ et 300, c'est l'âge, la période classique. Avant, je ne l'ai pas mis, mais il y a 2 siècles, c'est l'âge archaïque, la période archaïque. Ensuite, il y a du 3e siècle avant Jésus-Christ, donc là c'est la mort d'Alexandre le Grand, jusqu'à l'année 0. Il y a une période qui est normalement considérée une période de décadence, mais en réalité, quand on sait qu'il y a eu des royaumes gouvernés par des Grecs tout autour de la Méditerranée, du centre et d'Orient, c'est une période qui, au contraire, est très prospère, très faste pour les Grecs, et où il y a eu, effectivement, une explosion scientifique aussi. On en a parlé longuement l'année passée, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais, pendant la période classique, sans qu'on puisse encore parler vraiment des sciences, ce qu'on appelle maintenant philosophes naturalistes, eux, ils ne savaient pas qu'ils étaient naturalistes, ils étaient philosophes tout court, avaient déjà eu des idées quand même assez étonnantes compte tenu de l'époque et puis des moyens qu'ils avaient. Donc, ils ont commencé d'abord à dire que la Terre est suspendue dans l'espace au lieu d'être appuyée sur l'eau. Ensuite, ils ont dit tant qu'à faire, elle est ronde, et puis la Lune est ronde aussi, et puis le Soleil est rond aussi. La lumière de la Lune, par réflexion, donc c'est la lumière qu'elle reflète, c'est la lumière du Soleil qu'elle reflète. La Terre tourne sur elle-même. La petite partie sombre de la Lune que vous pouvez voir ce soir, c'est le reflet de la lumière de la Terre. Imaginez. Il y a la théorie atomiste de la matière. Et quelqu'un a dit que les étoiles sont des autres soleils, et donc tant qu'à faire, il peut y avoir des autres mondes habités, pourquoi pas. Ensuite, on arrive à l'école il y a à Athènes 2 grands philosophes, donc Platon et ensuite Aristote, et Platon pose une question à ses mathématiciens. Il dit, quel est le chemin des mouvements circulaires, si vous voulez, qu'il faut adopter pour rendre compte de ce qu'on voit dans le ciel. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on voit dans les siennes avec plus de précision. Mais disons que depuis toujours, on connaissait cinq planètes, parce que ce sont les cinq planètes qui sont visibles à l'œil nu, et les autres, il faudra attendre Herschel beaucoup plus tard pour découvrir Uranus. Alors, voilà une photo des étoiles prises par longue exposition la nuit. Donc, on peut bien penser que le ciel tourne, vous voyez, autour d'un axe qui pointe juste sur l'étoile polaire. La réponse à Platon vient d'Eudoxe de Cnide, qui était un grand mathématicien, qui lui concorde un système de sphères concentriques. Alors, des sphères concentriques, vous voyez, j'ai mis ce dessin qui n'a rien à voir, mais c'est vraiment des sphères l'une sur l'autre, comme les pelures de l'oignon, si vous voulez. Il en a utilisé 4 pour chaque planète, 3 pour la Lune et le Soleil, plus une pour les étoiles, donc 27 sphères, qui tournent l'une sur l'autre, mais pas sur le même axe, ni avec la même vitesse, si vous voulez. Donc, c'est un modèle purement géométrique, si on veut. Et ça marchait assez bien. Son disciple Calippe, il a trouvé quelques imprécisions, donc il a rajouté cette sphère, mais l'idée était toujours la même. Et sur cela arrive Aristote, qui était le disciple de Platon, qui était le précepteur d'Alexandre le Grand, ce qui lui a permis de rester à Athènes, parce qu'autrement les Athéniens l'auraient foutu dehors tout de suite. Et Aristote n'était pas d'accord avec Platon du tout, parce que Platon c'était un génie, il partait à droite, à gauche, dans toutes les directions. Aristote c'était quelqu'un qui voulait les choses bien classées, tout en ordre, etc. Et on a fait un Suisse. Et donc Aristote, il construit une théorie qui est en béton, c'est-à-dire il prend toutes les idées qu'il y avait à l'époque en physique, en cosmologie, etc. Il construit un système du monde, si vous voulez, une description du monde, où il y a tout. Alors, le monde est divisé en deux parties. Il y a le monde céleste, si vous voulez, donc tout ce qui est en dessus de la Lune. Ce monde-là baigne dans un élément qui s'appelle Terre, qui est un élément parfait, presque divin, et tout ce qui est dans ce bain de Terre doit toujours tourner en rond. Il n'y a pas d'autre mouvement possible, et il tourne en rond éternellement. Donc voilà, résolu le problème des planètes et des étoiles. Ensuite, en dessous de la Lune, il y a le monde sublunaire, donc il y a les 4 éléments de Pédoc, la terre, l'eau, l'air et le feu. C'est un monde où les choses peuvent aller mal, en fait, et c'est le monde de la corruption, etc. Dans ce monde, il n'y a qu'un type de mouvement spontané, si vous voulez. Vous laissez, vous prenez un corps, vous le laissez, soit il va vers le bas, s'il est lourd, soit il va vers le haut. Ça, c'est les deux mouvements naturels, selon Aristote. Ensuite, c'est sûr que si vous lancez une flèche, la flèche, elle s'en va, ou on la lance. Mais, alors lui, il dit, la flèche avance parce qu'il y a une force appliquée. Et quand il n'y a plus de force parce qu'elle a quitté l'arc, alors c'est l'air qui se referme derrière qui la pousse. Donc, ce système d'Aristote, on y reviendra tout à l'heure. Passons maintenant à la période de l'hellénisme, parce qu'il a fait beaucoup de dommages, hein, il a bloqué la compréhension du monde pendant pas mal de temps. Quand on arrive aux vrais scientifiques, vous voyez, dans la période de l'hellénisme, la science, c'est des pères de la philosophie. Il y avait les philosophes, il y avait les scientifiques. les scientifiques, eux, ils n'avaient rien à faire de théorie philosophique, donc Aristote, ils l'ont ignoré, et ils ont développé leurs théories mathématiques, astronomiques, etc. Donc, on s'est occupé du cosmos, mais dans un sens vraiment technique. Par exemple, on a mesuré la dimension de la Lune. Là, dans la figure, il y a une façon toute simple de mesurer la dimension de la Lune. C'est-à-dire, pendant une éclipse, vous regardez combien de temps ça prend pour que la Lune passe derrière l'ombre de la Terre, si vous voulez. Et comme on avait mesuré la Terre, on a tout de suite déterminé que la Lune faisait à peu près un tiers de la Terre. Une fois qu'on a dit que la dimension de la Lune est un tiers de la dimension de la Terre, rien qu'en regardant, si vous voulez, vous pouvez la couvrir avec une pièce d'un euro mise à une certaine distance, rien qu'en regardant comme ça, on a déterminé la distance de la Lune. Puis on a fait d'autres petites mesures, on a décidé que le Soleil était au moins 30 fois plus loin de la Lune, donc comme le Soleil, quand on le regarde, il a à peu près la dimension de la Lune, le Soleil devait être beaucoup plus grand que la Terre. Et à ce moment-là, les gens commençaient à se dire, mais c'est aberrant de dire que s'il y a un astre qui est tellement plus grand, c'est aberrant de dire qu'il tourne autour de la Terre, ce sera le plus petit qui tourne autour du plus grand. Donc ils ont formulé une théorie héliocentrique. Il y avait très clair aussi l'idée de la gravité. Il y a un Seleucos qui a formulé la théorie correcte, parfaite et complète des marées qui ne reviendra plus jamais dans ce détail pratiquement jusqu'à Newton. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, la politique et l'économie vont mal. Et donc, tout ce savoir s'oublie. Et ce qui reste, donc il ne reste plus aucun livre de cette époque, à part les éléments d'Euclide et quelque chose d'Archimède. Donc, ce qui a été sauvé, ça a été sauvé par Claude Ptolémée, qui était un grand scientifique, grec aussi, d'Alexandrie, qui a réuni dans ses œuvres, si vous voulez, tous ceux qu'il a pu ramasser des connaissances précédentes. Mais, comme on dit, le cœur n'y est plus, c'est-à-dire, par exemple, nous verrons que dans le schéma de Ptolémée pour le mouvement des astres, lui il donnait des règles pratiques, mais il n'expliquait pas pourquoi ou comment on obtenait ces règles. Donc c'était des règles de cuisine, si vous voulez. Et Aristote revient à la mode. Pourquoi? Mais entre-temps, il y a le christianisme. Plus tard, il y aura l'islamisme. Et ces religions ont besoin d'une théorie de la nature. Vous comprenez qu'un prêtre ne peut pas expliquer le monde, l'au-delà, etc., sans pouvoir expliquer aux gens pourquoi un caillou tombe à terre. Donc, Les religions, si vous voulez, se sont emparées de cette théorie d'Aristote parce que c'était la seule qui existait. Il n'y avait pas une autre théorie pour tout expliquer. Pire, cette théorie est devenue part du dogme, c'est-à-dire elle a été... Moi, au début, j'étais étonné de voir combien d'idées d'Aristote on retrouve dans la cosmologie chrétienne, par exemple. Mais c'est bien simple, c'est-à-dire qu'ils ont pris tel quel le système et ils l'ont transplanté. Mais après l'avoir transplanté, ils l'ont en plus défini comme indiscutable. Et voilà pourquoi, quand on arrivait à l'époque de Galilée, on risquait sa peau rien que pour dire que la Terre ne tourne autour d'elle-même. Il n'y a pas de logique dans cet entêtement, si vous voulez, à nier des idées physiques d'un type ou d'un autre. Mais il y avait une raison profonde. C'est-à-dire que, non seulement, si on mettait en question une des choses affirmées par Aristote, il y avait toute la théorie dogmatique de la chrétienté, si vous voulez, qui tombait à l'eau, mais même, on le verra plus tard, c'est-à-dire, si vous commencez à dire que la Terre tourne autour d'elle-même et puis tourne autour du soleil, vous ne savez plus expliquer pourquoi un caillou tombe par terre. Cette théorie était un bloc en béton. Il fallait ou tout jeter, ou tout prendre. Donc, voilà la fin de la partie préliminaire. Ce que je voulais mettre en évidence, c'est quel est l'héritage scientifique pour les gens du Moyen-Âge et après. Parce qu'il faut voir ça pour pouvoir comprendre la suite. Donc, on a dit la physique et la cosmologie d'Aristote. Je ne vais pas mentionner au passage, mais c'était dans l'écran que Claude Ptolémée ne s'est pas encombré pour chercher une physique différente. Il a pris la physique d'Aristote, il a utilisé telle qu'elle. Donc, la physique et la cosmologie d'Aristote, elles y sont. L'astronomie et la géographie de Ptolémée. D'ailleurs, quand on redécouvrira la géographie de Ptolémée en Occident, on réapprendra, on l'avait vu, à faire des cartes géographiques et à naviguer comme il faut. Ensuite, ce qui s'était passé à Athènes avec Platon et Aristote, c'était un fait relativement grave. C'est-à-dire, les philosophes s'étaient emparés de la cosmologie en l'enlevant aux scientifiques. Et cette idée est restée pendant toute la période arabe, par exemple. À chaque fois où un astronome arrivait à un point de dire « mais là, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette théorie, il faudrait qu'on change le chemin », on trouve texto, ça revient aux philosophes. Donc, discuter la structure du monde revient aux philosophes. Et quand on arrivera à Copernic, etc., c'était encore les philosophes qui devaient dire si oui ou non, les philosophes, voire les théologiens, hein, qui devaient dire si oui ou non la Terre tourne, ne tourne pas, etc. Donc, une des opérations qui était à faire, on va le voir, ça on l'a déjà dit. Non? Non, on n'a pas dit. Mais si, on avait parlé de Claude Ptolémée. Donc, les œuvres de Ptolémée nous ont été transmises. Et il y avait dedans pas mal de choses. Il y avait toute l'astronomie, il y avait toute la géographie. La géographie, j'entends, géographie scientifique avec des longitudes, latitudes, des méridiens, des parallèles. Il y avait les coordonnées des 8000 sites géographiques. Il y avait un catalogue de 1120 étoiles, donc la position dans le fait. Et l'optique de Ptolémée était aussi une œuvre bien accomplie, seulement elle s'arrête, c'est-à-dire qu'il manque la partie où il commence à parler de lentilles. Alors, voilà le système. Le schéma dans le système de Ptolémée, il est légèrement différent de celui des Grecs anciens, parce que pour les Grecs anciens, le soleil venait tout de suite après la lune. En revanche, dans le système soi-disant géocentrique, c'est-à-dire avec la Terre au centre, il y a la Terre, la Lune, les deux planètes que nous appelons internes, parce qu'elles sont entre la Terre et le soleil, si vous voulez, aujourd'hui, Mercure et Vénus, qui quand on les regarde, elles ont la caractéristique, elles ne sont jamais très loin du Soleil, dans le ciel. Et ensuite, il y a les trois planètes externes et l'étoile, et la sphère des étoiles qu'on appelle fixe, parce qu'on pensait vraiment qu'elles étaient fixées avec des clous. Hein. Non. Ici, il y a un petit chemin pour vous rappeler comment on définit les saisons. Quand la Terre tourne autour du Soleil, il y a deux moments où la journée, les jours et la nuit font exactement 12 heures pour tout le monde. Et il y a un moment où la Terre est très éloignée du Soleil, donc pour nous, il fait froid, c'est l'hiver. pour les autres c'est l'été. Et donc nous avons deux équinoxes et deux solstices. Équinoxe, donc ça veut dire que les jours et la nuit sont ont la même durée. Solstice, c'est que le soleil arrête de descendre, si vous voulez, commence à remonter, le soleil de midi. Tout ceci pour dire que depuis l'âge classique, on savait déjà que les saisons n'avaient pas la même durée. Vous voyez, il y en a qui sont plus longues, il y en a qui sont plus courtes. Et donc, il faut en déduire que l'orbite, pour nous, de la Terre autour du Soleil, pour eux, du Soleil autour de la Terre, je vous rappelle aussi que si vous avez deux corps qui tournent l'un autour de l'autre, et ça ne fait aucune différence de dire, pour quelqu'un qui est sur la Terre, il peut dire le Soleil tourne autour de la Terre, c'est parfaitement correct, vous voyez. Donc, eux, ils voyaient le Soleil tourner autour de la Terre, et les saisons n'étaient pas les mêmes, donc l'orbite n'était pas ronde. Mais comme, par tradition ancienne, il fallait toujours utiliser des mouvements circulaires, alors on a collé un petit cercle qu'on appelle épicycle sur le cercle principal qu'on appelle déférent. Bon, c'est le nom ostrogothe, mais c'est comme ça. Hein? Déférent, ça veut dire qu'il transporte l'autre. Épicycle, ça veut dire qu'il tourne sur la périphérie de l'autre. Avec un petit épicycle comme ça, le petit chemin que vous avez en haut vous montre comment obtenir tout de suite une orbite un peu allongée pour la Terre ou pour le Soleil. Et ça, c'est la théorie de Ptolémée. Pour Ptolémée, c'était des courbes géométriques, mais pour Aristote, les sphères célestes étaient corporelles, c'est-à-dire avec une substance. Donc, quand on a fait tout le bon mélange entre Aristote et Ptolémée, on a redonné une substance corporelle à toutes ces sphères, si vous voulez. Ptolémée a adopté ce système parce que il ne voulait pas de 30, 40 ou 55 sphères comme dans le schéma d'Aristote, si vous voulez, ça s'en faisait trop. Il voulait réduire le nombre de sphères au maximum possible. Bon, le maximum possible, c'est de prendre pour chaque astre un cercle principal et puis un cercle secondaire, comme ça. On peut rendre compte donc d'un petit allongement de l'orbite. On peut aussi rendre compte d'autres choses qu'on va voir tout de suite. Vous voyez qu'il y a des astres comme Mars qui n'ont pas un petit épicycle, ils en ont un énorme. Et pourquoi? Et même les autres planètes. On va voir tout de suite la raison. Si on observe pendant quelques semaines ou quelques mois la planète Mars par rapport aux étoiles fixes, vous voyez que la planète a l'air de s'arrêter, puis de revenir en arrière, puis de repartir. Et ça, c'est un fait. On peut le voir encore aujourd'hui. Toutes les planètes font à peu près comme ça. Et donc, vous voyez en haut à droite comment le système d'un cercle principal a associé à un épicycle peut rendre compte de cette apparente anomalie. Donc, dans le système de Ptolémée, si vous voulez, quand vous vouliez trouver la position d'un astre, il y avait deux coups de compas à donner, un cercle puis un autre cercle, et le jeu était joué. C'était un système excellent. En plus, ce système avait l'avantage de résoudre un autre problème, c'est-à-dire que dans la théorie des sphères tout emboîtées, on arrivait à simuler à peu près le mouvement des astres, mais on n'arrivait pas à expliquer pourquoi tantôt Mars est plus brillant et Vénus est plus brillante ou moins brillant. Parce que À partir du moment où ils sont sur une sphère en forme d'oignon, la luminosité devrait être toujours la même. Alors on a fait semblant de ne pas s'en apercevoir, on a ignoré le problème, mais avec le chemin de Ptolémée, on voit bien que la planète s'approche de la Terre et s'éloigne de la Terre. Donc on avait expliqué aussi cet aspect. Ce système, il était si bon, même si on a dit qu'une personne ne savait plus comment on choisissait tel ou tel cercle. Lui, il avait laissé la recette. Mais il était tellement bien ficelé que pendant 14 siècles, si vous voulez, les gens n'ont eu qu'à retoucher quelques petits paramètres. Donc, on déplace un peu le centre d'un cercle, on change un peu la vitesse. Et on remet à jour les tables astronomiques, c'est-à-dire on se servait de ce modèle pour produire des tables où pour chaque jour de l'année, on pouvait aller et voir où se trouvait telle et telle planète.